De vive voix, nos territoires prennent la parole.
Alors déjà, je vais demander à Joseph et Martin de présenter en une minute votre collectivité, le nombre d'habitants, le nombre de collectivités dans l'intercommunalité dans laquelle vous travaillez et ce qui pourrait motiver un habitant à habiter dans votre collectivité. Quelle identité, quelle attractivité de votre identité ? En un mot.
Bonjour à tous. Joseph Rousset, donc moi, directeur général des services, depuis maintenant dans cette collectivité, depuis à peu près 10 ans, j'ai été directeur général d'une communauté d'agglomération avant d'être directeur général d'une communauté de communes. Vous voyez, moi je l'ai fait un peu, je fais la promotion à l'inverse. Non, pas du tout. C'est le choix, et c'est un choix vraiment voulu, et justement pour être sur un territoire qui est un peu différent, qui est donc un territoire plutôt urbain, donc à l'ouest au nord-ouest de Montpellier, territoire de près de 40 000 habitants, 28 communes, ce qui est la moyenne aujourd'hui dans les strates intercommunales, depuis la réorganisation de la carte. On est aujourd'hui à 28 communes, là on n'était pas tout à fait à 10 communes avant la réorganisation de la carte intercommunale. Donc vous voyez, c'est une communauté qui est plutôt intégrée avec presque 300 agents et qui organise beaucoup de compétences, évidemment. 300 agents au 1er janvier 2018, parce que on va faire un bond, presque 50 agents de plus au 1er janvier 2018, à cause ou grâce à la GEMAPI, grâce à l'eau, grâce à l'assainissement, qui sont trois compétences dont je vous parlerai plus finement, mais qui seront vraiment l'enjeu clé de notre année 2018. Voilà pourquoi cette communauté, parce qu'à l'ouest du Montpellier est une communauté qui est, je disais, urbaine, une grande partie rurale qui touche les monts de Saint-Guilhem, dont avec Saint-Guilhem-le-Désert, une des plus jolies villes de France, et petit village de France, de 200 habitants, et qui se transforme en un village de presque 25 000 l'été, et donc un territoire qui est extrêmement patrimonial, à 17 minutes, 20 minutes de Montpellier, voilà pourquoi.
Donc Martin Dizière, directeur des services techniques de la ville de Mions, dans la métropole de Lyon. Donc la métropole de Lyon, c'est 59 communes, c'est une métropole, mais qui était avant une communauté urbaine avec beaucoup de compétences, gérées en propre, l'eau, l'assainissement, enfin je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et la ville de Mions, on est environ à 15 000 habitants. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, on était sur les 5, 6, 7 000. Donc il y a eu une très forte progression. C'est une commune périurbaine. Et donc moi, je suis un très bon exemple des communes, des petites, moyennes communes, des pourtours des métropoles, et de l'évolution qu'on est en train de vivre actuellement en tant que commune vis-à-vis de ces métropoles qui sont en train de s'affirmer, depuis 2015 pour la métropole de Lyon, des collectivités territoriales à part entière. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis en poste en tant que directeur des services techniques. Avant, j'étais responsable développement durable, et auparavant, j'étais dans le privé. Moi, je fais j'ai eu 10 ans d'expérience dans le privé avant de venir dans le public. Je suis animateur du groupe de travail des DST au niveau de l'AITF. Donc c'est aussi une des choses qui a fait que petit à petit, je me suis rapproché du CNFPT, et puis je suis très fier de pouvoir participer au lancement de cette e-communauté là prochainement. Et pourquoi les habitants de Mions, les Miolans, sont intéressés à venir vivre dans cette commune, parce qu'il y a vraiment une attirance très forte, c'est parce qu'on est vraiment dans la métropole, donc on a l'ensemble des services métropolitains, et en même temps je suis vraiment dans la deuxième couronne, et on est juste à côté de la nature, donc c'est des gens qui ont des villas, on a eu un étalement urbain impressionnant. Et donc on a vraiment des gens de la ville mais qui veulent vivre à la campagne. Voilà, c'est un peu notre spécificité.
Merci. Alors puisqu'on est sur des récits, des ressentis, est-ce que vous pouvez résumer aussi les faits marquants depuis 2 ans au niveau institutionnel et en termes de réorganisation des services techniques, que ça soit transfert, réorganisation entre intercommunalité et ville?
Alors, c'est quand même, mettez-vous à la place de vos collègues territoriaux, eux, de terrain, c'est une véritable révolution copernicienne, ce qu'on est en train de vivre hein, dans les collectivités, parce que évidemment, il y a le quotidien, et ça, on était plutôt très habitué à le faire, mais il y a tout ce qui doit se préparer et qui doit évidemment se projeter parce que on a des échéances clés avec évidemment je parle de l'encadrement des lois de ces trois dernières années hein. On pourrait dire depuis 2010 avec RCT, mais on avait déjà l'idée avec réforme des collectivités territoriales, on avait déjà l'idée, le gouvernement avait déjà l'idée d'une véritable réforme en profondeur, et on attend la loi NOTRe qui véritablement constitue l'acte 3, j'allais dire, de la décentralisation pour nos collectivités, et c'est vraiment une révolution copernicienne. Je vous dis, pour moi, ça va impacter quasiment un tiers des effectifs. Petit tiers, mais quasiment un tiers des effectifs. Donc, c'est vraiment un travail de forçat qu'on a eu à faire depuis 2-3 ans, parce que sachant que les questions et que les lois arrivaient, d'ailleurs heureusement que les parlementaires sont pas toujours d'accord, ce qui nous a permis d'avoir un peu de temps encore pour travailler, mais du coup sachant que ces choses-là arrivaient, il a fallu aussi que nous on organise ces transferts qui évidemment pour parce que en même temps que la loi créait ces nouvelles compétences pour nos collectivités, les transférer, voire même les créer ex abrupto hein, c'est l'exemple, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de la GEMAPI, puisque personne ne faisait rien sur la question de la GEMAPI hein. On s'occupait de voir que l'État voyait avec son rôle de police de l'environnement que les propriétaires des berges et les propriétaires dont de la moitié de la rivière, quelle qu'elle soit rivière ou qu'elle soit fleuve ou autre, fassent son job et puis on laissait passer. Et donc on a créé comme ça des compétences ex abrupto pour les collectivités qui ont pris de plein fouet toutes ces questions-là, en même temps qu'on a resserré les cartes. Hein. Je vous disais, on est passé de 10 communes en moyenne à 28, on est passé de 15 000 habitants en moyenne, même pas 12 000 habitants, à 53 000 habitants aujourd'hui en moyenne dans les 1266 intercommunalités qui existent pour les 36 000 communes. Donc c'est vrai que dans le fond, et je comprends ton choix Gaël, de dire je suis allé voir ailleurs que simplement dans les grandes collectivités, parce que je prends l'exemple de ce qui se passe, tout le monde a l'impression que on est tous concernés, il va y avoir, et le gouvernement vient de le dire, 13 milliards encore d'économies auprès des collectivités. Mais qui sont les collectivités qui sont concernées? Eh bien, voyez bien qu'on ne parle pas des 36 600 communes, on parle là des collectivités qui sont les départements, les régions, les EPCI de plus de 150 000 habitants et les communes de 50 000 habitants et plus. Ben, ça représente combien de collectivités? Je vous le donne en 1000. 319. D'accord? Voilà. Donc, la France est une France rurale. Ce qui veut dire que l'organisation territoriale de la France, elle ne repose pas essentiellement sur les métropoles. Certes, elles sont extrêmement importantes pour le rayonnement de la France et le développement de la France. Et c'est là que se porte aujourd'hui, en tout cas c'est là que le disent les économistes, on pourrait ne pas être d'accord avec tout, mais c'est là que se porte le ferment de la valeur ajoutée de ce qu'on crée aujourd'hui. Mais pas que. Et donc les territoires aussi ont besoin de s'organiser. Et les petites communes et les petites villes, parce que si on les organise pas, demain, on n'aura plus, en matière d'aménagement du territoire, plus personne qui sera capable de travailler sur les interlandes. Donc ça, c'est extrêmement important.
Alors pour la partie métropolitaine que moi je représente plus, c'est vrai que moi je rejoins ce que disait Joseph hein, sur la révolution copernicienne qu'on a subie, ou sur le choc hein, qui sont en train de subir les collectivités, à la fois par le côté législatif, par les différentes lois, mais aussi par le fort impact réduction budgétaire, donc qui fait que automatiquement les élus les élus direction générale, etc., nous disent maintenant on a moins, comment est-ce qu'on fait au moins aussi bien avec moins. La ville où je travaille, on a 300 agents, 230 fiches de paye. La métropole, c'est entre 8 et 11 000. Je me rappelle plus parce que entre la fusion département, enfin, la métropole a récupéré le département, etc. Donc, c'est vraiment une collectivité, gigantesque qui est très difficile à bouger. Donc, la métropole qui est devenue de fait une collectivité au 1er janvier 2015, s'est donné 2 ans pour progressivement se transformer. Là, on est déjà à 2 ans et demi. on n'a toujours pas vu la fin de la transformation, mais on voit encore que ça bouge et on s'oriente maintenant vers une territorialisation des services urbains. Alors, il y a eu une première phase avant, sur les deux premières années, où ça a été, on rapproche les directions, on rapproche les services urbains, donc on rapproche, par exemple, la collecte avec la propreté, le nettoiement, hein, parce qu'il y avait deux directions, deux services bien différents. Maintenant, on les rapproche, l'eau, l'assainissement, on rapproche les voiries, etc., pour essayer d'avoir une vision plus intégrée des services qui sont rendus. Et de ces services-là intégrés, on vient les territorialiser sur des conférences territoriales des maires qui permettent de faire le lien avec l'échelon des communes. Je vais pas parler trop de la métropole parce que c'est pas l'objectif, mais on montre bien que la grosse force de frappe de l'action publique est en train d'évoluer. Et nous, au niveau des communes, on est en train d'essayer de s'adapter chacun dans notre collectivité. Alors à 15 000 habitants, 300 salariés, 300 agents, on arrive encore à peu près à manier les choses, mais on a aussi des petites communes de 500 habitants où il y a plus des élus que des agents. Donc c'est pas forcément exactement la même chose. Pour ce qui concerne le niveau communal, on s'oriente nous beaucoup maintenant sur être l'échelon de proximité par rapport à la métropole. La métropole a des services, mutualise, a beaucoup de ressources aussi bien matérielles que humaines, mais ils doivent maintenant juger le niveau d'intervention qu'ils ont à faire. Je prends l'exemple du service du nettoiement. Ils vont dire, on va maintenant, comme d'habitude, hiérarchiser en disant, j'ai un niveau 1 d'intervention, un niveau 2, un niveau 3. Le 1, c'est le top du top, c'est le centre-ville. Le 2, c'est intermédiaire. Le 3, voilà. Ben, au lieu de faire ça, auparavant, les métropoles étaient plutôt à se dire, je fais ça d'une manière ingénieure, c'est moi qui décide, je fais mon truc dans mon coin, parce que je sais mieux, parce que je connais, etc. Eh bien, ils ont besoin de notre expertise à nous du terrain, en tant que commune, pour faire accepter ça par les habitants. Et donc, nous, on est en train progressivement l'impact concret que ça a eu, moi, sur mes services, c'est que j'ai fusionné le service espace vert, le service propreté. C'était trois agents à la propreté et 9 agents au service espace vert. On les a fusionnés pour que justement il y ait un seul service qui gère l'espace public et qui permette aussi de faire remonter ces informations-là lors des échanges qu'on a mis en place avec les collègues des territoires urbains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ingénieur, on a un ingénieur subdivisionnaire, du nouveau service propreté collecte voirie qui est en échange direct avec nous pour dire voilà comment est-ce qu'on intervient et on fait un vrai travail maintenant de synergie on va dire pour essayer d'avoir une approche plus intégrée de notre action.
Alors, on a parlé territorialisation, transfert de compétences techniques, fusion de services. Donc moi, je voulais savoir, en tant que manager de gros effectifs, comment vous conduisez cette opération, comment vous réorganisez, comment vous formez, comment vous préparez aux nouvelles compétences, de façon très concrète.
Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Martin, c'est que nous, on a ce même souci de territorialisation. Et évidemment, il se joue pas à la même échelle, parce que autant eux déconcentrent dans chaque territoire constitué des différentes communes ou de intercommunes, autant chez nous, moi, 28 communes, j'en ai 10 qui ont moins de 500 habitants, ben je me rends compte que il y a vraiment une demande d'ingénierie que ces communes n'ont pas, et que évidemment les projets sont extrêmement mineurs, mais s'ils sont véritablement accompagnés, ils donnent du sens à la politique publique et ils donnent aussi de la cohérence au projet par rapport à un simple projet de ville que peuvent avoir n'importe quelle commune, parce que c'est pas réservé à des communes de 100 000 habitants un projet de ville. On peut très bien avoir l'idée d'un projet de ville parce que les gens y habitent, et parce que même s'il y a 80 ou 100 habitants, c'est pas ni moins ni plus important que d'en avoir 100 000. Et donc du coup, cette question de la territorialisation, elle se pose aussi à moi, dans le fond, par différents outils, et notamment des maîtrises d'ouvrages délégués ou des outils, et vous le verrez, je vous en reparlerai, mais pour arriver à faire en sorte que l'interco devient un peu l'appui technique. des communes et apporte l'ingénierie que les communes ne pourraient pas avoir. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que on voit maintenant des territoires dans la nouvelle configuration, encore avec ces 1260 collectivités, établissements publics intercommunaux, qui sont encore, pour un certain nombre d'entre eux, ceux qui sont encore sur la maille inférieure, où on a du mal à trouver l'ingénierie du territoire et donc à y porter du développement, parce que l'accompagnement, même si tout le monde dit les départements, les régions, ils sont là pour accompagner, les départements, les régions ne remplacent pas l'échelon de proximité. Et ce bloc local, on a intérêt à le travailler pour qu'il soit aussi beaucoup plus pragmatique. Alors la question de comment on fait pour manager ça, alors évidemment on nous y pousse un peu, c'est-à-dire qu'à la fois on est en train de réfléchir à comment on rationalise nos actions et comment on les porte en commun avec les communes. Et alors, autant vous dire que moi, je fais partie à la DGCF de ceux qui ont véritablement défendu le projet. Aujourd'hui, il est accepté par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'un jour, sur l'échelon local, on va vers l'administration unique. C'est-à-dire que c'est évident qu'aujourd'hui, pour bon nombre de communes, l'action territoriale n'est pas possible. C'est-à-dire, si c'est pas avec l'intercommunalité, rien ne se fera dans ces communes. Parce qu'elles n'ont pas les outils, elles n'ont pas la matière grise, elles n'ont pas les capacités à le faire. Et donc, l'enjeu de cette démarche et de l'administration unique, elle est très importante. Le jour où vous avez une secrétaire de mairie, un secrétaire de mairie, un des agents d'une de ces collectivités qui manque, il n'y a plus rien dans la collectivité et plus rien pour le remplacer. Il faut le voir. Et ces communes-là ont des fois quelques 5-6 agents techniques et il y a un agent administratif qui fait fonction de secrétaire de mairie. Donc dans ces conditions-là, c'est évident que c'est pas le bon échelon et que c'est pas la bonne façon de faire. Donc cette question, elle est au centre de nos préoccupations. Donc le management, il commence aussi par cette question de quels sont les besoins des communes et comment on répond à ça. Ensuite, il y a ce qui nous arrive de façon externalisée, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, notre révolution copernicienne qui là nous oblige, mais qui s'est fait petit à petit, parce que la loi, déjà avant d'en arriver là, on a eu en 2004 avec la loi responsabilité locale le fait de monter en puissance sur un certain nombre d'éléments, et personne s'en est rendu compte, mais sur les échelles d'intégration, on a mis de plus en plus d'outils en place pour obliger les intercommunalités à travailler avec les communes et à prendre des compétences. Et donc cette montée en puissance, elle a amené les collectivités à réorganiser, et les intercommunalités notamment, à réorganiser leur savoir-faire et à prendre des nouvelles compétences qui ont demandé évidemment d'avoir une vision managériale. Alors à la fois sur la ressource interne et le besoin interne et les projets portés de façon endogène par la communauté, mais aussi par rapport aux besoins exprimés par les communes. Et donc, ces questions-là, depuis 2004. Et évidemment, aujourd'hui, 2015, avec la loi NOTRe, je vous dis, on a quand même, la préparation, à la fois GEMAPI pour 2018, à la fois l'intégration de l'eau et de l'assainissement. Alors, certes, compétences obligatoires, mais comme alors, je vais pas rentrer dans le côté technique, mais les communautés comme les nôtres, qui sont quasiment des communautés d'agglomération Canada Dry, qui sont à DGF bonifiées, si on n'a pas les 9 compétences d'ici 2018, on perd la DGF bonifiée. Donc toutes les communautés de communes qui sont de ce type-là, évidemment, font l'effort d'aller chercher l'eau et l'assainissement, parce que sinon, elles n'ont pas les 9 compétences obligatoires. Donc vous voyez que ces systèmes mis en place par le législateur obligent aussi les collectivités à monter en puissance, et du coup, elles nous obligent aussi à avoir des modes de gestion qui deviennent de plus en plus vite comme les grandes collectivités, et avoir une perspective et avoir une prospective. Ça, c'est absolument indispensable. Moi, c'est il y a très longtemps que j'ai organisé ça dans ma collectivité. Mon président m'a permis de le faire. Mais c'est l'idée que on ne peut pas travailler sur les besoins des habitants et sur les compétences qui petit à petit intègrent nos blocs locaux sans le faire avec le souci de trouver à chaque agent une véritable place pour que le travail en cohérence avec les habitants s'organise et du coup qu'on ait une espèce de mieux-être à la fois pour les agents qui travaillent chez nous, mais aussi qu'il y ait la sensation que les habitants sont entendus dans les activités que l'on met en place et dans les services que l'on met en place. Alors nous, on travaille depuis très très longtemps, on fait des formations intra avec le CNFPT, mais sur ces dossiers-là, on s'est trouvé aussi confronté à trois situations. D'abord, le fait que on récupérait des agents qui venaient des autres collectivités. Pour le transfert de l'eau et l'assainissement, c'est le cas. Et encore que, on a des très grosses communes, ou par exemple, des toutes petites communes, pardon, où, par exemple, on avait des agents qui étaient affectés à 1/15 sur cette activité, à 15% sur cette activité-là. Donc, vous voyez que les transferts sont pas aussi faciles et aussi logiques que on peut le croire. Et le maire souvent dire, mais moi cet agent, il fait plein de choses, je veux pas le transférer parce que j'en ai besoin. Donc cette organisation nous a demandé à la fois de récupérer statutairement un certain nombre d'agents, de structurer et donc de recruter en définitive à l'extérieur, et avant de recruter à l'extérieur, comme on avait fait un travail en amont en disant voilà, il y a des nouveaux services qui vont arriver, est-ce qu'il y a des agents chez nous qui pourraient répondre à ces questions-là. Et la DRH avait mis en place une enquête et un travail avec les agents, en vérifiant dans leur CV ceux qui étaient déjà sur des formations de base qui étaient plutôt adaptées. On a trouvé, nous, dans les agents qui travaillaient chez nous, qui travaillaient dans d'autres lieux, pour vous dire, j'ai aujourd'hui la responsable de sur l'eau qui va saisir tout le pôle commercial, c'est-à-dire tout le relais à la clientèle, aux usagers, pour la conduite de l'action. Elle était directrice adjointe d'une crèche. Donc, voyez. Et elle avait une formation, évidemment, en bio, voilà, et une formation en environnement, un master, ce qui fait que, voilà, elle avait à la fois fait ça, non pas par défaut, mais parce que ça lui avait plu, et aujourd'hui, elle voulait se repositionner. Et dans le travail que la RH a fait, on a bien compris que cette question était fondamentale. Donc, je donne l'exemple d'un agent, mais on voit bien que ce travail-là, il nous a amené à repositionner la personne, à la faire reprendre contact et connaissance des nouvelles règles, législations, tout ce qui était en cours sur les métiers qu'elle allait faire, notamment sur l'eau, et pour enfin la positionner. Elle l'a fait sans savoir au départ si elle allait oui ou non être prise, parce qu'elle sait très bien que chez nous, il y a un jury et qu'on allait faire le choix des agents qu'on allait retenir. Donc c'est aussi une forme de, à la fois de reconnaissance, de valorisation et d'accompagnement des agents.
Donc nous, d'un point de vue métier compétence, ce qui a le plus gros impact, ça a été, moi je vois deux niveaux. Un impact, c'est sur... On a vraiment changé maintenant, on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. On a vraiment réorienté, nous les services techniques, on s'est réorienté vers les usagers, en disant quel est le service qu'on rendait aux usagers. Ça, je développerai un petit peu. Et puis l'autre chose, c'était de dire, dans la contrainte budgétaire que l'on a maintenant, on va repenser nos services techniques pour optimiser nos ressources. Donc sur les résultats, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la fusion espace vert et propreté, c'était que, l'objectif c'était de dire, on arrête de faire passer un service qui vient pour les herbes, puis après un service qui vient pour faire la propreté, puis après la métropole qui vient pour la voirie, le service de voirie qui vient pour passer un coup de balayeuse pour enlever au niveau de la voirie, puis après le service nettoiement qui vient pour les pistes cyclables et les trottoirs, puis le service arbres et paysages qui vient pour nettoyer en dessous des arbres, et puis après on rappelle en plus aux habitants qu'ils ont l'obligation aussi de nettoyer devant chez eux, quoi. Donc on est vraiment parti là-dessus en disant c'est quoi le service qui est attendu de la part des habitants, et puis on essaye de se structurer nous pour fusionner ces services-là, travailler en coopération ville-interco et donner de la polyvalence à nos agents. Un agent espace vert, il aimait pas qu'on l'appelle, il aime bien qu'on l'appelle jardinier. Un agent la propreté, il aimait bien qu'on l'appelle agent technique, lui ça lui allait, quoi. C'était pas gagné en fait d'avoir cette polyvalence et de dire regardez, vous allez pouvoir faire plusieurs métiers. Donc ça, il a fallu l'accompagner, mais accompagner déjà en premier lieu les cadres intermédiaires, voilà. Et vraiment faire que les cadres intermédiaires soient le bon relais, le bon échelon pour conserver la motivation au niveau des agents et dire regardez, on va vous donner de la polyvalence, mais cette polyvalence là ça va être un plus pour vous et c'est pas zut encore, je vais avoir du travail en plus. Comment est-ce qu'on a réussi nous à les motiver? Enfin, j'espère qu'on a réussi à les motiver, mais si premièrement, ça a été de dire la propreté c'est un travail beaucoup moins pénible Et dans le métier espace vert, faites-le une fois dans votre vie, désherbez pendant 1 kilomètre. Quand vous êtes à genoux, vous avez plus de genoux, ça fatigue, etc. Et c'est vrai que c'est, on comprend l'usure d'un agent qui arrive à 60 ans s'il a fait ça toute sa vie. D'où l'importance, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir ce côté-là, de se dire, c'est, on a la chance dans la fonction publique territoriale d'avoir toute une famille de métiers qui peut être du bûcheron au crèche, enfin voilà, et on peut vraiment faire évoluer ces personnes-là. Donc cette orientation usagée, nous on l'a mis en place dans ce sens-là en disant on crée plus de polyvalence dans nos équipes. On forme les cadres intermédiaires au management parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout acquis. Parce que justement, c'était un ancien des espaces verts, un ancien agent catégorie C, qui est devenu technicien par la promotion interne. Et de renforcer ce management-là, c'est quelque chose d'essentiel actuellement. Je trouve, quand je vois ça dans les autres collectivités, les collègues, dans le groupe de travail, on est 200 DST à échanger. C'est vraiment quelque chose de très courant dans les petites et moyennes collectivités. Donc je parlais de la formation, de la motivation, de la polyvalence. Et puis après, il y avait aussi un lien entre la partie conception d'un espace ou conception d'un bâtiment et entretien d'un espace et entretien d'un bâtiment. De réussir à rapprocher ces services-là et de ne plus faire... chez moi, c'était des services vraiment très cloisonnés, mais de dire... On vient définir un parking, et ben c'est un parking paysager qui va prendre en compte à la fois le ruissellement, qui va prendre en compte la gestion de la biodiversité, qui va prendre en compte la mobilité pour dire où est-ce qu'on le met, mais est-ce qu'on crée pas voilà des passages, donc d'avoir une vision plus globale, et bien sûr en intégrant, alors ça se fait dans les grandes collectivités, ça commence à Lyon en tout cas, parce que c'est pas totalement... mais ça se diffuse aussi un peu de partout maintenant, c'est de dire, on prend, comme dans un bâtiment, le coût global, et ben on prend la gestion globale de notre équipement. C'est pas facile à faire avec les collègues de la voirie, qui eux sont habitués à nous faire du bitume, quand on leur dit qu'il faut faire des nous, quand on leur dit qu'il faut bien faire attention au raccord entre l'enrobé et puis les... Que les jointoiements soient vraiment bien faits, pour qu'après le service qui vient désherber pendant 30 ans, 20 ans, n'ait pas à chaque fois à donner un petit coup de binette, quoi. Et ben ça, c'est des choses qui nous permettent, de faire des économies dans du long terme, hein, parce qu'on a moins d'interventions à faire, et puis de satisfaire mieux nos habitants. J'ai pas un des derniers points qui sur lesquels, ou pour peut-être faire le lien sur le côté formation, sur lesquels on est très en demande, c'est de faire comment est-ce qu'on arrive à motiver les agents. Alors motiver les agents, on peut les motiver pas par la paye forcément, pas par les primes, même si on peut essayer un peu de jouer avec ça. On peut les motiver par des projets. Le service espace vert, nous, c'était espace public maintenant, pardon, c'était d'avoir notre première fleur. On essaye d'avoir voilà des projets qui tirent un peu vers le haut. Mais il y a une vraie attente de dire, il y a différents types de motivation et il y a pas que les ingénieurs qui doivent être formés là-dessus. Il y a surtout les cadres intermédiaires, mais jusqu'aussi aux agents de maîtrise, quoi. C'est des choses qui peuvent, qui sont essentielles. Pourquoi? Parce que nous, on a un absentéisme qui est élevé dans les services techniques, enfin, assez élevé, pas trop élevé, mais quand même assez élevé, et qu'on nous demande, pour éviter de recruter, de faire revenir les gens au travail. Hein, donc ça se passe par la formation à un très bon outil, fixer un peu des objectifs, mais après c'est de l'accompagnement au quotidien. Donc ça veut dire que l'encadrant doit pouvoir comprendre, adapter un peu sa psychologie, sa manière de manager, réussir à créer de l'enthousiasme, de l'envie à venir travailler, même si souvent le travail est dur, hein, et peut être répétitif. Et là-dessus, je sais pas ce qui, enfin, je sais que c'est une chose qui est importante pour nous. Je crois que j'ai dit peut-être la dernière chose, c'était sur le côté gestion de projet. Alors la gestion de projet, ça reste des généralités, mais je trouve que maintenant on n'a plus le choix, nous on est obligé d'y passer. On peut plus être de la gestion de projet service technique. Nous, on n'est plus les services techniques, on n'est plus une direction bien séparée. On est un service qui a des techniciens au service, en coopération avec les autres services. Et donc, on essaye, nous, de se décloisonner et d'avoir vraiment une approche avec nos collègues des autres directions, mais comme on peut l'avoir aussi avec la métropole, de dire on travaille ensemble pour un projet. Hein, ça va être sur un projet, on va pouvoir vraiment se focaliser là-dessus. Et ça, c'est une chose pareille, où les gens sont très peu formés dans la fonction publique territoriale, je trouve. Hein, c'est quelque chose où, en tout cas dans les petites et moyennes collectivités.
Alors, si on se projette là dans les bilans que vous n'avez pas encore fait de ces années, est-ce que vous pensez qu'à l'occasion de ces transferts et des réorganisations des services, vous allez apporter des innovations techniques à l'intercommunalité? Comment vous allez évaluer, quels seront vos critères d'évaluation? Est-ce que vous, finalement, vous resterez sur l'évaluation des transferts ou des réorganisations obligatoires, ou est-ce que vous évaluerez aussi tout ce qui était volontaire, notamment l'accompagnement des petites collectivités et autres, qui sont pas toujours obligatoires?
Alors, moi, je crois que l'innovation maintenant dans les collectivités, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, parce que on se retrouve à travailler sur des appels à projets. On travaille vraiment sur la contractualisation de plus en plus avec les régions, évidemment, qui sont depuis la loi NOTRe, hein, les deux binômes, hein, région intercommunalité, les deux binômes, bloc local pour dire les choses, puisque on intervient souvent en subsidiarité de nos communes. Et donc ce binôme région intercommunalité, il prend aujourd'hui véritablement toute sa place. Donc dans plein d'appels à projets, on travaille, on est toujours un peu en bordure de ce que sont nos compétences ou ce que la loi nous permet de faire. Et donc on travaille sur beaucoup de projets où on voit bien que la méthode de conventionnement entre nous, d'ailleurs descendante ou ascendante, hein, parce que sur plein de projets on réfléchit aussi, ça devient véritablement quelque chose qui est, je disais tout à l'heure, vraiment de plus en plus commun. Mais le système même de ce que nous a permis de faire la loi, au-delà de ces transferts, est aussi un système qui a permis, je pense, l'innovation territoriale. Je peux parler en particulier de la question de la mutualisation des services. Alors le législateur l'avait prévu aux deux niveaux, puisque rappelez-vous, lorsque la loi RCT réforme des collectivités avait prévu de créer un conseiller territorial, vous savez, hein, ce fameux conseiller régional et départemental qui est mort-né. L'idée, c'était aussi d'avoir un système de pilotage de régionalisation des départements et de pilotage régional des départements avec cet objet de mutualisation qu'on a gardé pour le bloc local. Et donc, la mise en place des schémas de mutualisation, ça s'est fait pour tout. Alors, tous étaient obligés de le faire au 1er janvier 2015, au 1er janvier 2016, tous ne l'ont pas fait. À peu près 50% des EPCI ont répondu à l'attente de la loi sur la question des schémas de mutualisation. Mais derrière cette question, si on y réfléchissait un petit peu plus, on allait véritablement dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas simplement de venir piquer les compétences aux communes qui évidemment se sentent de plus en plus vidées de leur substance, même si, je le disais tout à l'heure, dans une commune de moins de 500 habitants, alors aujourd'hui ce sera plus le cas, mais jusque là, imaginez-vous quand elle avait à refaire son pluvial dans une rue ou dans la rue centrale de son village, évidemment une fois qu'elle avait fait le pluvial, elle avait plus d'argent pour 40 ans pour rien faire, même pas pour payer les 4 livres pour son regroupement scolaire. Donc on comprend bien que là il y a une question de fond qui se pose pour ces communes-là. Mais en gros, la question de je décide de mon PLU, je décide de qui et de comment ça s'installe, etc. On peut comprendre que, comme le disait tout à l'heure Martin, que les communes souhaitent garder parce qu'elles sont capables d'avoir du sens sur ces choses-là et donc d'accompagner leurs projets urbains. Donc nous, la mutualisation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on n'est pas tout à fait dans la prise de compétences, on est dans l'accompagnement en étant sous la responsabilité fonctionnelle des maires avec qui l'on travaille quand on travaille sur ces questions, même s'ils sont sous mon autorité administrative et celle de mon président. Donc ça, C'est important parce que la mutualisation nous a permis de faire aussi beaucoup de choses. On a, nous, porté un vaste chantier où là où on mutualisait généralement dans les grosses agglos jusqu'à présent sur à la fois la commune mère, je dirais, et l'intercommunalité, ben on est passé à une mutualisation. Nous, chez nous, ça a été un vaste chantier ouvert sur les 28 communes. On a des services aujourd'hui mutualisés sur les 28 communes. Donc quand je parle d'administration unique, vous voyez que on a beaucoup progressé. On a commencé sur l'informatique. Sur l'informatique, aujourd'hui, on est en train de développer un schéma directeur informatique pour les 28 communes. On est sur le Wi-Fi, réseau territorial de Wi-Fi. On installe les hotspots quasiment partout, dans toutes les communes, pour relayer tout le travail qu'on est en train de faire sur le haut débit, en accompagnement du département chez nous, puisque c'est le département qui a porté, pendant ces dernières années, tout le projet haut débit et qui finalise son travail. Donc, c'est un exemple, mais j'en ai beaucoup sur, je disais tout à l'heure, l'accompagnement sur la maîtrise d'ouvrage délégué. Aujourd'hui, on le fait systématiquement pour toutes les communes et pour tous les projets. On n'a pas la compétence scolaire, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas un projet d'école qui ne passe pas au crible de l'expertise de la communauté. On va accompagner le projet, mais on va l'accompagner sous toutes ses formes. C'est-à-dire que derrière la maîtrise d'ouvrage délégué, on va venir accompagner le projet techniquement, on va avoir le pôle marché qui va travailler et qui va porter la question du marché, voire quand il va s'agir ensuite d'acheter du mobilier, etc., on va pouvoir passer par le groupement de commandes qu'on a mis ensemble en place pour toutes les communes, et on va accompagner avec notre équipe prospective qui fait l'ingénierie financière pour accompagner la recherche de subventions, pour accompagner les projets, pour chercher éventuellement sur telle ou telle classe ou telle spécificité un financement particulier que ne pourrait pas avoir la commune et qu'on va accompagner. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de clés qui se mettent en place pour accompagner les communes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, puisque chez nous on va de 7 000 à 8 000 habitants jusqu'à 80 habitants. Donc c'est bien cette question de la mutualisation qui dans le fond est aussi un outil d'innovation pour nous, parce que il nous permet d'aller beaucoup plus loin. Vous imaginez qu'aujourd'hui on est capable d'accompagner une commune de 70 habitants, on l'a accompagnée, Arboras pour ne pas la citer, sur le bord des monts de Saint-Guilhem, hein, sur les monts de la Serranne, pour dire les choses. Donc vous voyez, c'est plutôt un beau panorama. Mais du coup, on l'a accompagné à la fois pour mettre en place son AVAP, hein, ex-ZPPAUP. Elle n'aurait jamais pu le faire seule et elle n'aurait jamais pu le porter. Et puis, en même temps, aujourd'hui, on est en train de définir sa place dans le schéma directeur informatique. Comment aurait-elle pu penser aujourd'hui, là où elle avait même pas un PC revu, retravaillé, et là aujourd'hui 5 PC qui travaillent, qui sont des outils fixes et mobiles et qui sont utilisés par la commune et qui lui permettent de travailler à la fois sur la question de l'accueil et de l'accueil permanent du citoyen, là où elle pouvait pas ouvrir tout le temps, elle arrive à ouvrir avec des réponses techniques, et puis d'accompagner dans son schéma informatique là où elle aurait jamais pu espérer, mais jamais avoir une telle réponse. Voilà, c'est un exemple. Aujourd'hui, on a aussi mutualisé notre SIG, hein, notre service d'information géographique, et à partir de notre SIG, on a à la fois mis en place toutes les données, donc comme vous le connaissez, à la fois sur l'orthophoto, sur l'accompagnement, sur l'écrasement du PLU, des PLUi et de l'orthophoto au plan, pour avoir une vraie cohérence des outils. Mais derrière, on y a mis des applicatifs métiers sur les voiries, sur les réseaux enterrés, sur les réseaux secs, sur les réseaux humides, etc. Et derrière ces applicatifs métiers, on met à disposition ces applicatifs, on les forme, on fait des formations intra avec nos techniciens et avec le CNFPT pour faire en sorte que à la fois les agents, mais souvent les élus, puissent avoir des formations. Donc vous imaginez bien que pour nous, c'est aussi une perspective qui est plus une perspective à 2 ans. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans 5 ans, en 2020, il faudra reformer les élus parce qu'il y en aura des nouveaux, etc. Et que ça fait partie des enjeux que nous, on doit prendre en compte dans notre travail.
Alors nous, sur Mions, je ne t'ai pas parlé au début, mais la métropole a contractualisé avec chaque commune dans le cadre d'un pacte de cohérence métropolitaine. C'est pas un schéma de mutualisation, mais c'est plutôt un schéma de coopération. pour dire donc là c'est, ça a été voté en 2015 et là c'est en train de se mettre en œuvre. On est dans la première phase, il vient d'être signé, donc il y a eu un travail d'échange entre l'ensemble des services, l'ensemble des élus de chaque commune pour dire qu'est-ce qui pouvait être intéressant ou pas de coopérer avec la métropole, mais aussi avec les communes membres de la métropole. Donc là, il y a toute une liste. Hein, ça va de l'action sociale, puisqu'on a récupéré les compétences du département, à l'insertion, la vie étudiante, l'accompagnement du développement urbain, tout ce qui est nettoiement, gestion des espaces complexes, le déneigement, synergie école-collège, politique culturelle et politique du sport. Donc ça, c'est un texte qui a été délibéré par le conseil municipal et on est en train de mettre ça en place, donc je peux pas pouvoir parler d'évaluation, mais on aura un comité de pilotage et un comité de suivi technique qui permettra en fait de faire vivre pendant les 5 ans, il me semble qu'il va rester du contrat, voir un peu comment est-ce qu'on met ça en place. Donc c'est très formel, mais ça a eu l'intérêt de mobiliser à la fois les services et les élus et de voir que l'intercommunalité était ce fameux espace ressource et pas forcément ce qui souvent est perçu en tout cas par les habitants d'où je suis, par le gros machin là qui où on sait pas trop à quoi ça sert quoi. Ça nous a montré nous aussi au service qu'il y avait un intérêt vraiment concret. Moi, le premier, c'est dans une ville qui évolue très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer nos équipements, nombre de groupes scolaires, nombre d'équipements sportifs, etc. La métropole met à la disposition de l'ensemble des communes qui le souhaitent un groupe de travail pour se dire, suivant l'évolution démographique, suivant les recensements, tout ça, comment est-ce qu'il vous faut tant de groupes en plus, ou il vous faut penser une maison des associations, enfin, etc. Donc, on commence un peu à réfléchir là-dessus. Dans ce cadre-là, il y a eu aussi, je sais pas si c'est une innovation, c'est le développement et le renforcement des réseaux d'échange d'expérience. Donc, ils existaient déjà, mais ça a vraiment été renforcé au niveau de la commande publique, du développement durable, de la restauration collective. Moi, je pousse maintenant pour qu'il y en ait un aussi au niveau des directeurs des services techniques, parce que je l'ai mis en place avec l'AITF entre collègues, mais là, que ce soit vraiment porté par la structure, c'est quand même plus légitime quelque part de mettre ça en place, et ça permet de diffuser plus rapidement les innovations qu'on peut avoir, ou en tout cas la manière dont on répond aux problématiques auxquelles on est confronté. Et le point pour moi qui est le plus innovant qu'on est en train de vivre actuellement, c'est la mise en œuvre d'un guichet numérique des métropolitains, enfin des habitants, et la collectivité, l'interco et nous, enfin l'ensemble des collectivités, on est en train de se positionner pour dire comment est-ce qu'on fait pour répondre de manière unique, avec un seul portail, avec une seule application, à l'ensemble des besoins du service public des habitants. Donc ça, c'est une deuxième révolution, si on parlait de révolution, où là il va y avoir une forte transformation de nos métiers. C'est pour ça aussi qu'on a déjà commencé un peu à s'orienter plus vers les usagers que plus sur les tâches qu'on faisait. Hein, on change d'orientation et de dire là-dessus comment est-ce qu'on forme nos agents aux outils numériques. Là, pour donner un exemple concret, la métropole a dit je vous fais un super outil, ça va être une super application. Vous voulez une place en crèche, vous voyez un nid de poule, vous voyez, enfin il y aura tout, ça sera magnifique, tout va être géré. Eh ben nous les services techniques, on se pose la question, mais c'est bien, mais nous on est encore avec l'imprimante, bon, à jet d'encre quand même. Mais le matin, il faut qu'on aille récupérer nos papiers, et puis on va faire la tournée, et puis il y a l'agent de maîtrise qui le soir rentre les opérations qui ont été faites, etc. On posait la question, mais on pourrait pas avoir des tablettes, hein, c'est pas une révolution, ça, mais ça demande des moyens, etc. Par contre, ça va dire quand même, on va changer la manière de faire, et on va être très fortement impacté par cette nouvelle application là qui va être mise en œuvre. Et le deuxième point, mais qui est un peu lié, c'est Facebook. Nous, on a des élus qui sont Facebook. La plupart des élus maintenant deviennent Facebook. Et les citoyens interpellent en permanence les élus. Et les élus nous interpellent directement, nous aussi, au niveau des services techniques, pour dire, tout de suite, dans la minute, il faut donner une réponse. Donc, le numérique va avoir un peu cette double approche-là, de dire, le citoyen va pouvoir être plus proche du service public qu'il souhaite avoir, va pouvoir mieux échanger. Mais de l'autre côté, ben ça va vouloir dire que nous, on va devoir avoir une réactivité ou en tout cas de mieux savoir traiter ces demandes-là, les hiérarchiser et dire ben, comment est-ce qu'on y répond, quoi.
Merci beaucoup. Alors, avant qu'on travaille ensemble sur des questions de fond, est-ce qu'il y a deux questions sur la clarification de ce qui a été dit, sans jugement? Voilà, juste sur des questions très factuelles.
Alors, excusez-moi. Moi, j'avais deux questions. Donc, une pour Martin Dizière. Donc, une question pour Martin Dizière sur comment sont appelés les agents polyvalents, en fait, sur les espaces publics. Donc, du coup,
Voilà, on continue toujours de les appeler jardiniers. Et puis après, au niveau des ateliers municipaux, on a une équipe de polyvalents.
Donc ce sont des polyvalents. Vous les appelez des polyvalents, c'est ça?
Polyvalents, tout à fait.
Très bien. Et ma deuxième question, donc c'était pour Joseph Brousset. Donc vous avez parlé de l'administration unique, que dans le futur, ça pouvait être ce vers quoi on allait tendre. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point-là et...
Alors, juste précision, je parle de l'administration unique pour le bloc local, hein. Je parlais pas d'une administration unique territoriale, etc. Je pense qu'il y aura, on va vers une administration unique sur le bloc local, c'est-à-dire sur le binôme commune-communauté. Je pense que et que c'est la bonne formule. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, toute la France est d'abord une France de multiforme, mais protéiforme, mais surtout une France toujours très rurale. Parce que si vous prenez la statistique, 34 000 communes de France font moins de 2 000 habitants, là où 36 600 communes. Donc vous voyez que la place des grandes communes, elle est extrêmement limitée en France. Et ça, il faut l'avoir vraiment en tête, parce que les enjeux de conserver la commune est un enjeu essentiel en termes de proximité. Mais c'est pas la commune en tant qu'organisation administrative qui est importante. Ce qui est important dans la commune, c'est son maire et ses adjoints, c'est sa municipalité. Ce qui est important par contre derrière, c'est que techniquement, on ait les outils pour pouvoir suivre. Or, les communes aujourd'hui, elles n'ont pas ces outils-là. Elles n'ont plus ces outils-là. Et bien souvent, quand elles les ont, ils sont un tout petit peu, on va dire, redondants avec ceux que met en place l'Interco. Je prends juste un exemple. Commune de 6000 habitants qui lance un appel à projet pour faire travailler un bureau d'études que vous connaissez tous, qui sont des bureaux d'études d'expertise fiscale, pour aller travailler. Alors que nous avons un observatoire fiscal. Donc, le travail qu'elle a payé 15 000 euros, on était capable de le faire pour zéro. Donc ça, c'est clairement une dépense pour rien. Simplement, un problème d'organisation, de compréhension. Alors, il faut dire que cette commune a changé de maire, etc. Et que dans voilà, ils sont partis un petit peu au hasard. On a eu beau les alerter, les choses se sont faites, et voilà, ça a été fait. Bon. Mais, ça montre bien que, aujourd'hui, on a tout intérêt à faire en sorte que la question de l'administration de la collectivité, elle n'est pas simplement dépendante d'être enracinée, rattachée uniquement à la commune, juste au centre-ville de la commune en question et de sa mairie. C'est une question d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, de hiérarchisation. C'est un travail fonctionnel, c'est-à-dire que quand on le fait sous la responsabilité fonctionnelle des élus qui en ont la charge, mais ça ne demande pas forcément d'être systématiquement dans les lieux. Et c'est aussi ça qui est aussi la territorialisation, c'est de le voir avec une vision plus d'organisation programmatique et technique sur un espace que de se dire chacun dans son lieu à son administration. C'était ça un peu que je voulais dire.
Marie Tavernier, 7 d'Angers. Juste un point de vue peut-être un peu différent du vôtre qui vient de l'ouest de la France, parce que c'est vrai que chez nous on parle moins de gestion unifiée ou d'administration unique que de création de communes nouvelles, ce qui veut dire des disparitions de communes effectivement, et avec des rôles qui se rejouent fortement entre les communes nouvelles et les interco, avec effectivement des missions et des objectifs différents et donc une administration différente. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de nuance, peut-être en fonction des territoires au niveau national. On n'est pas tous sur les mêmes évolutions aujourd'hui, et les mêmes partis pris aussi des élus qui ont des visions différentes.
Gérard Proto, DAF de Guadeloupe. Moi, j'ai une question par rapport à toutes ces démarches, ces changements qui impactent vos structures, vos interco. Comment vous accompagnez, voilà, cette recherche de la polyvalence, etc., la montée en compétences des agents? Est-ce que vous avez construit des plans de formation mutualisés? Parce que ça impacte à la fois le PCI et les communes membres. Est-ce que vous êtes dans ces démarches-là? Si oui, avec le CNFPT, quelle relation dans la construction de ces démarches?
Alors, pour ma collectivité, pour Muance, malheureusement non. C'est pas par manque d'envie, hein, c'est juste par manque de volonté politique et de la direction générale. J'ai eu trois directeurs généraux en 3 ans, donc bon, il y a pas eu de stabilité là-dessus, mais je pense que c'est essentiel. Je répondrai juste par un autre exemple d'un collègue de Châlons-en-Champagne qui avait participé au RNIT et qui avait donné l'exemple de la gestion de talents qu'ils ont mis en place eux au niveau entre la communauté d'agglomération et la ville, avec la fusion ville-centre, enfin de toute une série de services, et ils se sont lancés dans une gestion emploi et compétences plus, on va dire, quoi, pour dire on va se baser sur les talents de nos agents. Donc talents, c'est pas juste des compétences, c'est voilà, culturel, leurs envies, il y a le côté motivation, un peu passion dedans. Je suis passionné par la photographie, peut-être, enfin voilà, d'être beaucoup plus ouvert, mais pour après justement réussir à faire que la fusion, qui est une crainte pour 99% des agents, se transforme en une opportunité au moins pour la majorité, hein, et que ça permette cette recomposition là. Et là, bien sûr, le CNFPT, moi je suis pas au courant, mais d'ici demain je serai très au courant, je suppose, sur tout le panel que vous pouvez offrir aux collectivités pour les accompagner là-dessus. Et je pense que c'est essentiel.
Oui, alors nous on a pris en compte dans la mutualisation, on a fait en sorte dans la mise en place du schéma de mutualisation, on a fait en sorte de prendre ces questions-là véritablement pour trouver aussi on a fait un appel interne, c'est-à-dire que dans les services en fonction des mutualisations, en fonction des projets, des chantiers de mutualisation, on a regardé avec les agents qui étaient en envie, en volonté aussi de porter et de s'ouvrir, parce que c'est pas évident. C'est pas tous les agents qui veulent bien ouvrir leurs compétences et aller le travailler, se mettre un peu, se déstabiliser un petit peu, parce que aller s'ouvrir fonctionnellement à d'autres élus, à d'autres problématiques, ça demande aussi un petit peu de savoir-faire et sans doute un peu de sûreté que les agents, souvent dans un métier, quand ils sont dans un métier depuis 7, 8 ans, 10 ans, ont perdu. Donc ce travail-là, on l'a fait un petit peu avec eux, à la fois d'accompagnement, de remise à niveau, d'apport sur la question, et je pense que on l'a pas mis en place encore en intra, mais ça fait partie des questions que l'on se pose, notamment avec notre référent territorial CNFPT, pour travailler un petit peu sur des questions qui pourraient être faites en intra sur des formations qui d'ailleurs ne toucheraient pas forcément que l'interco, mais l'interco et toutes les communes aujourd'hui dans le dispositif tel qu'on le voit de maillage, voilà. Et juste pour répondre à madame sur les communes nouvelles, ça n'est rien d'autre que de l'intercommunalité, les communes nouvelles. C'est un autre dispositif. Juste pour dire que... Oui, voilà. Non, mais juste pour dire qu'on est sur un dispositif qui relève aussi de l'ancien dispositif qui était Paris-Lyon-Marseille, hein, et sur lequel on a fléché, tel qu'on a fléché aujourd'hui, les résultats pour les interco. Donc la question après de la commune nouvelle, regardez ce qui s'est passé sur Annecy aujourd'hui. L'agglomération d'Annecy, c'est une commune nouvelle, une et une seule, voilà. Donc transformer l'interco ou les communes nouvelles, de toute façon on en revient au même, et le résultat de cette question, c'est de créer aussi une administration unique. Bon, voilà.
De vive voix, nos territoires prennent la parole.